appela par la suite mont Sinaï, mont de Moïse ou Djebel Moussa, et qu'il a remporté trop d'épreuves pour ne pas mener sa quête jusqu'à son terme. Il a vaincu le roi de France, il a vaincu l'Inquisition, il a vaincu les Malachim, et il est accompagné de deux braves adolescents. J'ai vu dans ses yeux la lueur de celui qui n'abandonne jamais et qui ne vit que pour découvrir la vérité.
Moi aussi j'ai vu cela.
Et moi aussi.
Et quand il l'aura trouvé?
À cette question, nul ne répond. Le silence règne car tout est dit. Et alors les bougies s'éteignent une à une, et les visages rentrent dans l'ombre, et les corps s'effacent. Et c'est comme si soudain tout avait disparu. Chapitre 149. Andreas, qui avait toujours la lampe à huile du caloyer avec lui, passa le premier dans le petit escalier au milieu du tombeau. Il était si étroit que ses épaules frôlaient les murs de chaque côté. Et c'était une chose inquiétante que de descendre ainsi dans le royaume des morts. D'un pas lent et silencieux, cérémonieux presque, ils s'enfoncèrent tous trois dans le cœur de la montagne. Et si la descente se révéla fort abrupte, elle fut aussi très courte, car déjà ils arrivaient dans une pièce, non pas une pièce, mais une grotte, creusée dans le granit souterrain. Les murs, le plafond et le sol étaient d'une seule et même composition, surface brute et grise dont on distinguait mal les détails. La lumière de la lampe ne portait pas assez loin pour voir où se finissait la caverne. Aussi, prudemment, s'avancèrent-ils dans les ombres, formant un groupe serré, et on eût dit une procession. Après quelques pas, ils purent distinguer le bruit d'une eau qui coule. Et après d'autres pas encore, ils virent scintiller les reflets d'une cascade qui jaillissait du mur du fond et tombait dans un bassin, lequel nourrissait un petit ruisseau souterrain, lequel était sans doute celui qui, plus bas, sortait au milieu des jardins. Car ici, quoique sous terre, on était plus en hauteur. Andreas souleva la lampe devant lui, et alors au milieu de ce bassin, telle une île déserte dans l'océan, ils virent qu'émergeait un monticule de pierre sur lequel étaient deux choses. Et ces deux choses médusèrent nos trois visiteurs. Au deuxième plan, un buisson souterrain, de ceux qui se nourrissent non pas de lumière mais d'obscurité et d'air humide. Au premier plan, posé au pied de celui-là, un étui en cuir, oblong et cylindrique, de ceux qui servaient à conserver les rouleaux de parchemin et que l'on nommait parfois « scrigna », qui a donné le mot écrin, mais qui rappela aussi à Alice les mezouzotes qu'elle avait vues sur les linteaux des portes dans la juiverie de Bayonne.
« Le buisson ?» murmura Robin, qui en ce moment était proche de l'apoplexie.
Andreas alors, moult agité, voulut s'avancer davantage, mais son apprenti le retint par l'épaule.
« Maître, vos chaussures !»«
Pardon ?»«
Enlevez vos chaussures !»«
Et pourquoi faire ?»«
Vous savez très bien !»«
Parce que Dieu l'a demandé à Moïse, tu te moques de moi ?» Tu m'as appris pour un autre.
Maître, à quoi bon prendre le risque? Cela ne vous coûte rien. Maintenant que vous êtes là...
Cela me coûterait mon libre arbitre, jeune homme. En outre, je risquerais de me faire mal aux pieds. Tais-toi donc et laisse-moi.
L'apothicaire se remit en route et rejoignit prestement le bassin. Là, il posa la lampe sur le sol et mit les genoux à terre. Il trempa les mains dans l'eau qui était fraîche et limpide. Puis il tendit le bras vers le petit îlet, mais il ne parvint pas à l'atteindre car il était trop loin. Poussant un soupir, il jeta un regard agacé à son apprenti derrière lui.
« Tu as gagné, » dit-il en enlevant ses chausses.
Lors, pieds nus, il entra doucement dans le bassin. Comme il avançait dans l'eau péniblement, ses jambes s'enfoncèrent de plus en plus jusqu'à mi-cuisse. Et alors il fut devant le monticule de pierre où poussait cet improbable buisson. Malgré le caractère que le lecteur lui connaît, Andreas, en cet instant, éprouva quelque vive émotion. Peut-être pas une émotion de nature religieuse,